de Géodame, une écharpe pour le soleil. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0. Image de couverture Géodame. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Une écharpe pour le soleil. Il était une fois un pays où les gens étaient tristes, parce que le soleil était toujours malade, enrhumé d'un coryza rebelle. Le teint pâle, l'œil abattu, l'astre qu'un mauvais jeu de mots eût pu baptiser désastre, pleurait sans cesse d'interminables pluies, frissonnait d'une fièvre de sueur froide qui embrumait les vallées au petit matin ou relevait jusqu'à son front son édredon matelassé de nuages quand il ne toussait pas des postillons de grêle. Les habitants de ce pays se désolaient chaque jour davantage de cette maladie chronique qu'aucun docte savant n'était en mesure de guérir. À soir, les bras ballants de chagrin impuissant, les gens se réunirent sur la grande place. « Il faut faire quelque chose », décidèrent quelques-uns. « Oui, mais quoi ?» questionnèrent les autres. « On peut partir, aller chercher le soleil ailleurs. On dit qu'il est des pays où… »« Partir ? Non, ici nous avons nos habitudes. » « Je peux teindre les parapluies en jaune », proposa le teinturier, qui avait des intérêts chez le marchand d'ombrelles. « Ce n'est pas suffisant », protesta la foule. « Nous en avons assez de mettre des bottes et des imperméables. » »« Et nous finissons par nous enrhumer aussi. La maladie de notre soleil est contagieuse. » »« Oui, je suis en rupture de stock pour les médicaments », surenchérit le pharmacien. « Hier, j'ai dû en importer de l'étranger. »« Ça ne peut plus durer », se mouchèrent de nombreuses personnes. « J'ai froid !» grelotta un bambin. « Remonte ton écharpe sur ton nez !» le gourmanda sa mère en exécutant elle-même l'ordre. Le gosse protesta contre l'énergie maternelle. « C'est au soleil qu'il faut mettre une écharpe !»« Tu dis des sottises, tais-toi !»« Non !» intervint un très vieil homme. « Cet enfant a la solution à notre problème. Notre soleil a froid, il faut l'aider à se réchauffer. »«
Absurde ! A-t-on jamais vu un soleil avec une écharpe ?»
Non, bien sûr, puisqu'il n'y a que chez nous que le soleil est enrhumé. Avec quoi allez-vous tricoter cette écharpe, grand-père? La mercière n'aura jamais assez de laine dans son magasin, et qui tricotera?
Si chacun d'entre nous apporte toutes les pelotes qu'il a chez lui, si le berger tond ses moutons, si l'on file quelques nuages quand leurs écheveaux s'embrouillent dans nos forêts, si l'on dévide les cocons des chenilles, et si l'on démêle les toiles d'araignée, si l'on tresse le fil du temps, le fil de l'eau, vous verrez. « On y arrivera !»
Tous se regardèrent, dubitatifs, tous se séparèrent sur l'idée, et plus d'un se dire « Il est capable d'avoir raison, ce vieux fou !» Le lendemain, tous revinrent sur la grande place. Déjà patientait le fermier avec la laine de son troupeau que le berger avait tondu à l'aube. Maintes ménagères apportaient un plein panier de pelotes, de bobines, de pulls que l'on s'activait déjà à détricoter dans le lascif tressautement imperceptible des mailles qui se dénouent. Les grands-mères filaient déjà, les bûcherons roulaient devant eux une grosse boule de fil d'ange qu'ils avaient décrochée des branches de leurs grands arbres. La crémière avait amené son fil à couper le beurre. Un pêcheur amenait son moulinet et le courant de la rivière. Les tisserands, les tapissiers avaient dévalisé leurs ateliers. L'horloger avait arrêté ses pendules pour remonter sur un grand ressort le fil des heures. Les hommes apportaient le fil de leur rasoir, les escrimeurs celui de leurs épées, et le funambule son filin et ses câbles. Les bavards le fil de leurs discussions, le cordonnier les lacets de ses chaussures. Bref, chacun y allait de sa bonne volonté.
« Ce n'est pas tout, s'écria le grand-père, qui a des aiguilles assez longues pour tant de mailles. »
Silence. On n'avait pas prévu cela. Le chef de gare proposa « Je peux vous donner des rails. En les allongeant avec ceux de la voie de garage, cela pourrait suffire. »
« C'est exact. Allons-y. Nous n'avons pas de temps à perdre. »
« Je viens avec vous pour ciseler les pointes, » s'écria le forgeron. Peu à peu, voisinèrent les bleus lavande, les roses pêches, les blancs neigeux, les verts sombres des aiguilles de sapin, les fils d'or et d'argent donnés par le bijoutier, les violets des soirs d'automne, les roux des queues d'écureuils, les chinés gris et noirs des brebis aux agnelets frileux, les copeaux dorés du charpentier.
Voilà du rouge, comme j'aimerais voir mes tomates et mes fraises, disait le jardinier qui se désespérait d'avoir des récoltes trop pâles.
Du jaune blond comme les blés bien mûrs, qui font la bonne farine, qui donne le bon pain, dit la boulangère, matrone ronde et bonasse.
Et du blanc farineux, ajouta le boulanger, qui saupoudra son offrande sur le tas de fil déjà accumulé.
Du bleu myosotis, comme les yeux de mamie, apporta le Roméo d'une tendre Juliette qui répondit.
Du noir, comme l'ébène de tes cheveux, gentil garçon de mon cœur.
Du rose, comme vos bébés, chevrota une mémé souriante en déposant les flocons de quelques nuages d'aurore.
Jusqu'à l'épicier revêche qui vint donner sa contribution.
Voilà les fils de mes haricots en conserve.
Cette générosité était une telle performance pour cet homme désagréable et avare.
C'est curieux comme les épiciers ont mauvaise réputation. Sans doute sont-ce leurs épices qui leur montent au nez.
Que personne n'osa remarquer qu'il n'y avait pas grand perte pour lui, car, depuis belle lurette, personne n'achetait plus ses haricots en conserve. L'électricien décrocha tous ses fils électriques. Les marins déposèrent leurs cordages, leurs filins et leurs filets, le cordelier ses cordes, les animateurs de jeux télévisuels le fil rouge de leurs émissions, le pâtissier les fils de son caramel. Et l'on tricota, tricota, et encore tricota. On voulut faire appel à un célèbre artiste peintre pour choisir et harmoniser les couleurs, mais l'expérience se révéla désastreuse. Le génie en question, en grand conflit entre son moi, son surmoi, son non-moi, son et moi, à moins que, avait eu la suprême et sublime idée d'aller à l'encontre du banal du commun des mortels. Il fut remercié avec moult délicatesses et circonvolutions, ce qui ne l'empêcha pas de se vexer avec dédain pour cette populace à la si commune tendance picturale. Le hasard se chargea du choix délicat des nuages. Le rouge poisson voisina avec le bleu piscine des îles. L'orange et le blanc d'Espagne avec la sanguine et le fusain. Le rose matin avec le noir charbonneux de nuit sans lune. La neige des muguets avec le vermillon du sang versé. Le recto avec le verso des capes de torero. Le sable noir et le vert sinople avec le gueule carmin de l'héraldique, l'or du feu avec le cristal des rivières. Le peuple ne cessait sa besogne, ni de jour, ni de nuit, même les enfants. Chacun y allait de sa maille en droit, de sa maille en vert, du point mousse qui ondoya de bleu et de blanc comme des vagues, du point jersey qui dévida les vers nostalgiques d'un poète exilé, du point de riz qu'une main habile entrelaça au soleil levant, des torsades qu'un orage mêla d'éclairs, le jardinier sema à la volée d'un geste auguste les perles et les pierreries du joaillier sur une onde marine bleue de nuit, et les dentelières brodèrent les fils d'argent en cristaux de givre. Enfin, un matin, l'écharpe superbe fut frangée des grandes flammes d'un incendie de forêt. Qu'elle était longue, douce comme un vent d'été, souple comme un boa de plumes, chaude comme un baiser d'amoureux, ondoyante sur les collines où reposait son ruban multicolore. Il fallait maintenant l'offrir. On profita d'une courte visite du pauvre malade pour lui donner ce présent sans prix. Le soleil sourit de bonheur, mais il était si faible qu'aucun de ses rayons n'eut la force de ramasser l'écharpe merveilleuse. Il en pleura de chagrin, et avec lui tous les braves gens qui se désolaient à nouveau. Un imaginatif cependant lança « Attachons des ballons, beaucoup de ballons !»«
Le vent emportera l'écharpe trop loin !»«
Nous n'avons plus un seul fil, plus une seule ficelle pour les accrocher !»«
Il nous faudrait des ailes !»
Les oiseaux en ont, eux aussi, sont là de toute cette pluie.
L'oiselier s'avança. Venez, ouvrons les cages de ma boutique. Avec les oiseaux des champs et des bois, ils seront assez nombreux.
Le perroquet siffleur fut l'interprète entre les humains et ses congénères, et bientôt, tout au long de l'écharpe, comme sur les fils électriques des migrations, s'aligna la pépillante confrérie.
Qui connaît le chemin du soleil ? Questionnaient les oiseaux les plus impatients, les plus petits n'étant pas les plus excités.
« Je ne connais que la lune,
ululait la chouette, aux yeux papillotants et éblouis. « Moi !» s'écria le martin-pêcheur. « Non, toi tu t'es déjà brûlé le dos des ailes. Et vous, les oies sauvages, nous, nous connaissons la route du sud, pas du soleil de ce pays. » Un colibri, petit, si petit qu'il ne pouvait aider à porter le fardeau, se proposa. « Je sais où se cache le soleil, je vous montrerai la route. » Alors s'éleva le plus magique des arcs en ciel, dans les froufrous de milliards d'ailes. Tout le monde en resta bouche bée. Il ne pensait pas avoir exécuté une si belle œuvre. Le soleil fut paré de sa magnifique écharpe et put enfin guérir. Le pays triste connut alors les aurores boréales d'un printemps frileux, de sa lumière neuve, puis un été irisé de soleil à l'incandescence éblouissante. Les feux de l'automne perlèrent de raisins bleus et de châtaignes brunes. Le soleil heureux aurait voulu récompenser tous ces braves gens qui avaient tant sacrifié pour le sauver et qui avaient œuvré avec tant d'amour, mais il ne savait comment. Une nuit, il donna rendez-vous à la lune. « Dis-moi, lune, que puis-je faire pour remercier mes amis ?»« Travaille pour leur donner le plus beau des pays. Chauffe, mais ne brûle pas. Garde l'ombre fraîche et le vent doux. Voile tes ardeurs trop pressantes. Sois exact pour les semis, les récoltes. Tout cela est bel et bon, mais cela ne me satisfait pas. J'ai longtemps été souffrant. Tout a du retard. Ce sera long à rattraper. » Alors, je ne vois qu'une solution. Donne-leur ton écharpe. À quoi leur servirait-elle? Écoute, si tu es d'accord, voici ce que nous allons faire. » La lune chuchota son projet à l'oreille du soleil. Enchanté, il prit rendez-vous pour le lendemain minuit, mi-temps du ciel. Le soleil regrettait bien un peu de se séparer de son cadeau, mais il savait que ce sacrifice seul assouvirait sa soif de reconnaissance. Quand tout le pays fut endormi, quand le marchand de sable eut achevé sa tournée consciencieuse, avec sa charrette aux essieux crissants, la lune et le soleil disposèrent l'écharpe. Le vert bouteille pour les hautes futaies, le bleu de Prusse pour les collines, le lilas mauve et les roses pour les jardins, le rouge pour les plates-bandes du jardinier, le jaune pour les champs de blé, le fil de l'eau dans le lit de la rivière, le compte à rebours des heures dans les ressorts des pendules, les sillons noirs sur les disques, les sillons bruns au labour, les cordes aux guitares, aux violons, les portées aux livres de musique, les cordes vocales aux chanteurs, les fils à linge aux étendoirs, les rubans noirs chinés de lignes continues et de pointillés blancs aux routes, les chaînes d'or au cou des enfants, le fil à plomb aux maçons, les câbles d'acier aux équilibristes du cirque, le fil d'Ariane à la légende, le fil à la patte du minotaure du labyrinthe. Puis, afin que le vent ne bouleverse bel arrangement, la lune ordonna aux étoiles d'aller clouer les bords de l'écharpe aux frontières du pays, au creux des vallons cachés où le narcisse fleurit en secret, au sommet des montagnes où l'édelweiss s'étoile, au cœur des maisons où veille la lampe près du berceau. « Garde les franges, » dit-elle au soleil, « point n'est besoin d'incendie. » Puis elle commanda un grand manteau de neige. « Enivre tes amis de blancheur immaculée afin que leur surprise soit parfaite, » intima-t-elle au soleil avant qu'ils ne se séparent. Le matin se leva, tout blanc de son hiver qui bleuissait de soleil. Jamais hiver ne fut plus heureux pour les habitants du pays. Le marchand de parapluies se convertit au parasol. Le pharmacien ne vendait plus que des onguents pour les foulures des skieurs téméraires. Le pâtissier glaçait de sucre ses gâteaux. Les grands-mères racontaient des histoires de loups aux veillées. Et les petits-enfants passaient des nuits blanches de lune. L'épicier lui-même goûta aux douceurs de ses bocaux de confiserie et cela lui améliora considérablement le caractère. Puis la neige fondit. Et là commença l'émerveillement. Chaque matin, les bonnes gens se hâtaient de sortir de leur maison pour découvrir ce que la nuit avait apporté, ce que le soleil leur offrait. on ressortit les recettes d'eau de roses et de lavande pour conserver la douceur veloutée des pétales et les senteurs enchanteresses. Des vocations picturales naquirent, malgré le désespoir que perpétuaient les saxifrages. Les oiseaux nichaient au cœur de bouquets de lilas, les clochettes des muguets carillonnèrent le mai des bonheurs et jouèrent à cache-cache avec les coucous. Les étangs s'irisèrent à l'éclosion des nymphes et les cosmos célestes s'y miraient. Les arômes, immaculés calices en parfum, offrirent aux abeilles leurs spadis d'or dans les effluves entêtants des seringas et des œillets. L'écharpe merveilleuse mélangeait allègrement les saisons et l'on vit s'étoiler les asters près des jacinthes. Les crocus et les colchiques rivalisèrent de délicatesse sur la mousse tendre des prés ombragés. Les glycines et les fleurs de la passion recouvrirent les vieux murs et entremêlèrent leurs pampres avec les trompettes de Jéricho des Bignonia. On mangea des cerises noires après les tomates rubicondes. Les citrouilles, changeant en carrosse leur grosse peau écarlate, quand des bambins s'asseyaient dessus pour égrener les groseilles blanches et aigrelettes, ou pour laisser fondre sous le palais le velours tiède des framboises. On créa des pommades de chardon bleu, des fards de boules de houx, des onguents de digital et des crèmes de jouvence à la fleur d'ancoli. Les camions et engins motorisés de toutes sortes carburèrent à l'essence de mille fleurs, et le pompiste acquit une solide réputation en proposant aux automobilistes un choix étendu d'essences variées de plantes parfumées. On inventa les beignets de fleurs de melon, des confitures de noix, des sirops de roses jaunes, des sirops de roses rouges, des gelées de raisins blancs et des vins de violettes, des compotes de coquelicots et des miels d'avoine, des liqueurs de pommes d'amour et de gratte-cul, des beurres de pissenlit, des bonbons de Véronique des chemins. Des œillets de poètes se glissèrent dans les pages de recueil. Des pensées mauves et blanches fleurirent au fronton des livres. Des belles de nuit se cousirent sur les draps blancs qui séchaient au grand vent, et les becs jaunes des genêts se tressèrent en chamarure sur les bleus de travail du cantonnier et du forgeron. On enguirlanda de gueules de loup les colliers des agneaux. Des diadèmes de roses de Noël et de muguets ornèrent les fronts des jeunes filles. Les chevelures grises des mémés se parfumèrent de lilas et leurs armoires fleurèrent la pomme ridée, le café à la vanille et la tarte à la cannelle. Le soleil volontiers se serait attardé sur ce paradis, mais il avait promis d'être exact à ses rendez-vous et il cédait sa place à la lune, sa complice de merveilles, dans les coraux incendiaires de ses couchants enflammés des franges de l'écharpe. Là-haut, dans le ciel, les étoiles avaient repris leur place sur le filet diamanté de la chevelure noire de la nuit. Il était une fois un pays où les gens étaient heureux, parce qu'ils avaient su donner leur amour à leur soleil. Là-bas, les marguerites que l'on effeuillait pour dire « je t'aime » gardaient dans leur cœur l'or de l'étoile qui s'y piqua. Ici se termine Une écharpe pour le soleil de Géo Dame. Illustration musicale de Pascal Krieg, tout droit réservé.